Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins prennent soin de leur grande santé tous les jours en compagnie de Tristan Grenassia, Marianne Chasseur, Samuel Legendre, Antoine Ravon et Géraldine Mosna-Savoie. À la réalisation sans drogue, peut-être, cette semaine, Midia Portis-Guérin. À la lecture sans remède, Jean-Louis Jacopin. Avec aujourd'hui à la prise de son sans Gravel, Pierrick Monsigny. (10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera très envie de lire les écrits inédits de Henry David Thoreau, parus aux éditions Climat sous le titre « Vivre comme un prince, écrit de jeunesse ». Un malade, questionné sur son état par le médecin, répondit qu'il avait sué plus que de raison. « Cela va bien, » dit le médecin. Questionné une seconde fois sur sa santé, il dit qu'il avait été pris de frissons et fortement secoué. « Cela va bien aussi, » dit le médecin. Une troisième fois, le médecin vint le voir et le questionna sur sa maladie. Il répondit qu'il avait eu la diarrhée. « Cela va bien encore, » dit le médecin. Et il se retira. Un de ses parents était venu le voir en lui demandant comment il allait. « Moi, répondit-il, je meurs à force d'aller bien. » Qu'est-ce que la bonne santé? Une obsession ou une norme? Un fantasme ou un prérequis? Il paraît que la philosophie est la médecine de l'âme, mais le philosophe n'est pourtant pas en reste devant les maux de son corps. Montaigne, victime de la gravelle, des calculs rénaux, qui encourage à accepter la part de vice et de maladie en soi sans aucun déni. Nietzsche, qui fit de sa volonté d'être en bonne santé, de sa volonté de vivre, sa philosophie. Winnicott, pour qui la capacité de l'individu à être seul constitue l'un des signes les plus importants de la maturité du développement affectif. Car la santé, bien loin d'être le propre du corps, donne à l'intellectuel un cours d'humilité, aux scientifiques ses leçons de relativité et à l'universel une piqûre de singularité. Si la santé n'est pas le contraire de la maladie, si le symptôme est aussi l'expression de l'instinct de survie, alors que voulons-nous dire lorsque nous nous souhaitons la bonne santé? Le silence des organes ou le cri du cœur? La paix ou la force? Le calme ou l'exploit? Cette semaine, prenons au sérieux 4 pensées de la médecine et de la santé qui vous permettront de distinguer le sain de la santé de l'hygiène et de ne plus opposer sain et malade, normal et pathologique. Demain, Patrick Votling se demandera ce qu'est la grande santé nietzschéenne. Mercredi, Claire Marin vous aidera à penser cette catastrophe intime qu'est la maladie, à partir notamment des écrits de Winnicott. Et jeudi, Roland Gori s'interrogera sur les critères permettant de définir ce qu'est la santé mentale. Mais aujourd'hui, sans cachet ni mouchoir, abordons la question de face avec Montaigne et en compagnie de Didier Ottaviani. Bonjour à vous.
Bonjour.
Mais raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point à la médecine?
Non, mon frère. Et je ne vois pas que pour son salut, il soit nécessaire d'y croire.
Quoi? Vous ne tenez pas véritable une chose établie par tout le monde et que tous les siècles ont révérée?
Bien loin de la tenir véritable, je la trouve, entre nous, une des plus grandes folies qui soit parmi les hommes. Et à regarder les choses en philosophe, Je ne vois point de plus plaisante momerie. Je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre.
Pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme en puisse guérir un autre ?
Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères jusque-ici où les hommes ne voient goutte, et que la nature nous a mis au-devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose.
Les médecins ne savent donc rien à votre compte.
Si fait, mon frère. Ils savent la plupart de fort belles humanités, savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir et les diviser. Mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout.
Mais toujours faut-il demeurer d'accord que sur cette matière, les médecins en savent plus que les autres.
Ils savent, mon frère, ce que je vous ai dit, qui ne guérit pas de grand-chose. Et toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatien, en un spécieux babile qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets.
Didier Ottaviani, Montaigne partage-t-il le point de vue de Bérald, le personnage du malade imaginaire de Molière, pour qui finalement les médecins ont un savoir, certes, mais que ce savoir est assez inutile pour guérir quiconque?
Alors oui, on pourrait dire que Montaigne donne en quelque sorte une propédeutique à ce qui sera l'argument de Molière dans beaucoup de ses pièces, c'est-à-dire que les médecins, finalement, ont un savoir, alors Montaigne les appelle des savantaux, qui connaissent mieux Galien que le malade. Et donc, de ce fait, eh bien, c'est un savoir somme toute théorique, mais qui n'est pas une véritable reconnaissance de la maladie en tant que telle, comme quelque chose qui permettrait véritablement le soin. Et de ce fait, eh bien, il y a une sorte de, à la fois de fascination et de défiance de Montaigne vis-à-vis de la médecine. Montaigne qui était un grand malade au niveau physique, puisqu'il avait donc la gravelle, c'est-à-dire des calculs, entre autres. Et de ce fait, il s'est beaucoup intéressé à cette question de la santé et à ce rapport à la médecine. Et force est de constater eh bien, que la médecine de son époque eh bien, lui apparaissait essentiellement comme une sorte de, disons, de parodie de médecine, une espèce de carnaval médical, mais pas véritablement ce qu'il attendait. Donc il met beaucoup d'espoir dans la médecine future, mais se trouve un petit peu déçu par la médecine de son époque, qui finalement n'arrive pas à traiter son cas, puisqu'il ne va pas mieux. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'il ne consulte pas de médecin, parce qu'il consulte beaucoup, en réalité.
C'est ça, donc à la fois fascination et forme de rejet, puisque d'un côté, Montaigne constate l'impuissance des médecins à guérir son propre cas. Il le relate dans les essais à de nombreuses reprises, hein. Il n'est pas avare de détails quant à sa propre maladie. Et de l'autre, une forme de fascination aussi, parce qu'il ne perd pas espoir en la médecine. C'est cette ambivalence qui est très intéressante, c'est qu'il pense que peut-être ce sera possible que de faire des progrès en médecine ou de la rendre utile pour guérir le mal, mais il ne rejette pas totalement cette science, entre guillemets, qu'est la médecine.
Oui, parce que, effectivement, il a vu que la médecine a fait des progrès. Elle a fait des progrès depuis l'époque médiévale, et puis évidemment depuis l'Antiquité. Donc, il y a quand même des choses qui sont... disons qu'ils sont mieux connus à son époque, on commence à avoir de la chirurgie, il s'intéresse beaucoup à des médecins comme Ambroise Paré, par exemple. Et, par exemple, quand il raconte ce que c'est que la gravelle, en réalité, c'est un passage du traité des pierres d'Ambroise Paré. Donc, il connaît très très bien tous ces textes. Mais en même temps, eh bien, il voit que la médecine et les progrès sont des progrès extrêmement lents et qu'elle reste, pour bien des choses, eh bien, une espèce de science imaginaire. Et d'ailleurs, il y a une défiance générale de Montaigne pour la science. C'est tout le propos du chapitre 12 du livre 2, l'Apologie de Raymond Sebond, où alors, la médecine fait partie des autres des sciences du corps, mais il se défie aussi de l'astronomie, de toutes les constructions de l'esprit humain, qui pour lui sont pseudo-scientifiques, c'est-à-dire qu'elles vont, elles viennent finalement et ne sont pas quelque chose de stable, et il ne voit pas tant de progrès que ça, il voit juste des différences d'interprétation, mais il espère, eh bien, une espèce de promesse future de cette médecine, et il aimerait bien se confier à un médecin qui puisse véritablement le soigner à un moment donné. Alors c'est pour ça qu'il... Mais alors il est C'est assez ambigu, parce qu'effectivement, il y a toujours cette fascination et ce rejet. C'est-à-dire que, par exemple, il entend parler de Paracels. Alors, Paracels qui remet en question l'héritage de Galien, qui va même, dit-on, jusqu'à brûler le canon de médecine d'Avicenne, qui est le grand traité médical à l'époque que l'on utilise encore dans les universités de médecine. Et donc, il propose quelque chose de radicalement nouveau. Donc, Montaigne s'y intéresse, mais en même temps, il se défie de ce nouveau médecin en disant « je ne vais pas me remettre dans ses mains parce que il a raison de dire que les anciens ne faisaient que tuer les malades, mais peut-être que lui ne fera pas mieux. »
Parce que d'un côté, il y a l'expérience de maladie qui est celle de Montaigne, et de l'autre, il y a le rapport à la connaissance de la médecine en tant que science. Et il faut dire qu'au XVIe siècle, il y a comme une forme de renouveau de la médecine qui avant était extrêmement théorique, scientifique. À la fin du Moyen-Âge, on trouve des textes d'Averroès, d'Avicenne, de Maïmonide qui présentent la médecine comme une forme de science, de discours théorique. Et Montaigne fait partie de ces gens qui vont renouveler ce discours-là, en réalité, en attirant l'attention sur l'importance à accorder à l'expérience, qui sans doute relativise le statut scientifique de cette science qu'est la médecine.
Oui, alors, en fait, il y a eu un espèce de moment charnière et de rupture à la fin du Moyen-Âge, lorsque, à partir du XIIe siècle, tous les traités d'Avicenne, d'Averroès, donc tout ce qui était la médecine arabe de l'époque des Lumières arabes, commence à entrer en Occident et est traduit en latin. Donc on a une espèce de renouveau de la médecine, et on a une espèce d'embardée de cette science médicale, à tel point qu'on va trouver des gens comme Pietro d'Abano au début du XIVe siècle, qui va dire qu'il a terminé finalement la science médicale, que c'est une science véritable maintenant, et plus seulement un art comme le pensait Aristote. Et donc ils ont une théorie majeure qui permet de tout expliquer, alors souvent liée avec de l'astrologie, toute une série de choses qui peuvent paraître aujourd'hui un petit peu imaginaires et relevées de la pseudo-science, mais qui à l'époque était la scientificité elle-même. Mais il y a eu un événement, c'est-à-dire qu'en 1348, la Grande Peste, eh bien, les médecins n'ont rien pu faire à cette occasion. Et donc ça a fait s'effondrer, si vous voulez, cette espèce de renouveau de la médecine qui tout d'un coup se rend compte que face à un fléau comme la peste, eh bien, elle est totalement inefficace. Donc cette scientificité va se trouver remise en question, mais pourtant à l'époque de Montaigne, eh bien, on retrouve avec la chirurgie une meilleure connaissance de l'anatomie, les travaux de Vézal, d'Ambroise Paré, etc. Donc on a encore un renouveau de cette science, mais elle reste toujours, eh bien, finalement, suspecte. Suspect, parce que c'est pour ça que Montaigne, dans l'incipit de l'émission, vous avez cité le texte que reprend Montaigne, la fable d'Ésope, sur ce malade qui, à force d'aller mieux, eh bien,
finit par mourir. À force d'aller bien, je suis en train de mourir. Voilà.
Oui, voilà, parce que Ésope comme Montaigne sont évidemment très drôles sur ces questions-là, et c'est pour ça qu'ils préfigurent d'une certaine manière les médecins et l'humour de Molière. Mais cette considération, si vous voulez, cette défiance vis-à-vis de la médecine, eh bien, reste présente malgré les progrès qui sont notables, même si évidemment on est encore au XVIe siècle, donc ça reste somme toute assez modeste par rapport à ce qu'on peut penser aujourd'hui, mais il y a quand même de réels progrès.
Montaigne franchit un pas de plus lorsqu'il affirme que non seulement il est sceptique par rapport à la médecine, que lui-même est malade, mais qu'il semble vivre très bien sans médecin, comme s'il était à lui-même son propre médecin. Je vous propose qu'on lui laisse la parole tout de suite dans un texte interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin. C'est au chapitre 37 du livre 2 des Essais, intitulé « Sur la ressemblance des enfants avec leur père », où on y entend Montaigne définir à la fois son rapport à la médecine et proposer une définition de la santé. Écoutons-le.
Je ne vois aucune espèce de gens si tôt malade et si tard guéri que celle qui est sous la juridiction de la médecine. Leur santé elle-même est altérée et gâtée par la contrainte des régimes. Les médecins ne se contentent pas d'avoir la maladie à gouverner, ils rendent la santé malade pour empêcher que l'on puisse à quelque moment échapper à leur autorité. D'une santé constante et entière, ne tirent-ils pas argument pour une grande maladie à venir ? J'ai été assez souvent malade. J'ai trouvé, sans leur secours, mes maladies aussi douces à supporter, et j'en ai éprouvé de presque toutes les sortes, et aussi courtes que chez personne d'autre. Et de plus, je n'y ai pas mêlé l'amertume des drogues de leurs ordonnances. La santé, Je l'ai libre et entière, sans règles et sans autre discipline que celle de mon habitude et de mon plaisir. Tout lieu est bon pour moi pour m'y arrêter, car il ne me faut pas d'autre confort, étant malade, que celui dont j'ai besoin quand je suis en bonne santé. Je ne me tourmente pas d'être sans médecin, sans apothicaire et sans secours, ce dont je vois la plupart des gens plus affligés que par le mal lui-même. Et quoi ? Les médecins eux-mêmes nous font-ils voir du bonheur et de la durée dans leur vie qui puissent nous montrer quelque effet évident de leur science ?
Ce que semble nous dire Montaigne, Didier Ottaviani, dans ce texte, c'est que, pour malade qu'il soit, Montaigne parle quand même de santé à son égard. C'est-à-dire que parler de santé, même peut-être de bonne santé, n'exclut pas le fait de se savoir malade.
Alors, tout à fait, parce qu'il redéfinit finalement ce qu'est la santé véritable. C'est-à-dire qu'il s'extrait de la logique qui était la logique, on pourrait dire, depuis l'Antiquité, une logique galéniste, d'un espèce d'équilibre entre les différentes humeurs, donc les quatre humeurs de Galien qui seraient équilibrées, qui seraient l'état de santé, alors qui est un état relatif, puisque on n'est jamais dans une santé parfaite, puisque la santé, c'est toujours un équilibre instable. Mais Montaigne va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la santé, pour lui, c'est avant tout une manière de vivre. Et de ce fait, ce n'est pas antinomique avec la maladie. Il est possible de vivre sa maladie et de ce fait d'être en santé, non pas au sens où l'on n'est pas malade, mais au sens où nous pouvons vivre une vie normale tout en étant dans la maladie. Et c'est cela, finalement, la santé, c'est-à-dire cette acceptation de la maladie et le changement qui en résulte, c'est-à-dire que simplement on passe dans un autre mode de vie. Alors, il a une très belle expression, puisqu'il dit qu'il a le vivre coliqueux. Ce vivre coliqueux est très intéressant, parce qu'effectivement, il nous oriente vers l'idée que vivre sa maladie, c'est tout simplement passer dans une autre forme de normalité.
Il parle de normalité ? Parce que là, quand vous employez ce terme, on pense par exemple au texte de Canguilhem sur le normal et le pathologique, oui. Qui montre que les deux ne s'opposent pas.
Alors, il ne parle pas exactement de normalité, ouais. Mais c'est vrai que c'est très proche de ce que dit Canguilhem lorsque, dans Le normal et le pathologique, par exemple, il va travailler sur la question du diabète et dire que le diabétique n'est pas quelqu'un qui vit de manière anormale, c'est quelqu'un qui vit selon une autre normalité. C'est-à-dire que les contraintes de la maladie imposent une autre forme de vie, toute une série de choses à faire et ne pas faire, mais que cela est un état, finalement, que Montaigne appellerait la santé. Puisque c'est une forme de vie dans laquelle on vit normalement, entre guillemets, bien que l'on soit malade. Donc, normal et pathologique, finalement, ne s'opposent pas. Il peut y avoir une pathologie et une normalité de cette pathologie. C'est cela le vivre coliqueux de Montaigne, justement, qui passe son temps, effectivement, à subir les assauts de diverses maladies. Alors, on peut se demander si elles sont toutes réelles ou un petit peu imaginaires, parce qu'il y a peut-être aussi un côté un peu hypochondriaque. Et puis, il y a un côté aussi, parfois, un peu de mauvaise foi. Par exemple, dans cet extrait, il dit qu'il vit très bien sans secours, c'est-à-dire sans médecin ni apothicaire. En réalité, si on lit, par exemple, le récit du voyage en Italie, on se rend compte que, dans toutes les villes où il passe, la première chose qu'il fait, c'est aller voir le médecin local et prendre une consultation. Donc en réalité, dans les faits, il est très proche des médecins, il y va souvent consulter, et il est fasciné d'ailleurs par ces consultations, c'est presque, un voyage culturel médical qu'il réalise pour voir tous les types de médecins qu'il peut rencontrer. Mais en même temps, ce qu'il leur reproche, c'est ce qu'il dit au début du passage, c'est leur autorité, c'est-à-dire qu'en réalité, les médecins, c'est une autorité qui s'adresse à vous, c'est-à-dire que c'est une forme de contrôle qui va vous inventer des maladies. C'est ce qu'il dit dans un passage, il dit « Lorsque les vrais mots nous manquent, la médecine nous prête les siens. »
Mot M-A-U-X, du coup
M-A-U-X, ouais. Oui. C'est-à-dire que eh bien, j'ai l'impression d'aller bien, mais le médecin va me dire « Ah, mais votre pâleur, ah, mais ce temps à venir, un petit peu humide, annonce une fièvre ou annonce
voilà,
une maladie imminente. »
Voilà, Montaigne nous dit « Cette impression d'aller bien, c'est ça qui compte. Hein, » Lorsqu'il dit « Je ne me tourmente pas d'être sans médecin », au fond, ce qu'il dit et ce qui le conduit à disqualifier l'importance des médecins, c'est que ce qui importe, c'est de se connaître suffisamment soi-même pour pouvoir se sentir bien, y compris lorsqu'on souffre.
Exactement, c'est une pratique de soi, c'est-à-dire que la santé est véritablement quelque chose de pratique, alors qui suppose que l'on ne bascule pas dans le côté purement imaginaire de la maladie, c'est-à-dire que, alors Montaigne se regarde beaucoup, il dit « moi qui m'épie de plus près », puisqu'il passe son temps effectivement à s'auto-examiner, mais justement c'est une pratique de soi qui permet de savoir être à soi, selon son expression. Mais il dit aussi, le plus difficile, c'est de savoir être à soi. C'est-à-dire que c'est très difficile, effectivement, de réaliser non pas cette simple connaissance abstraite de soi-même, mais être capable de se connaître dans ses dimensions les plus profondes, corporelles, et comme être malade, par exemple.
Les maux ont leur période, comme les biens. Cet accident de santé touche peut-être à sa fin. L'âge affaiblit la chaleur de mon estomac. Sa digestion étant de ce fait moins achevée, il renvoie cette matière crue à mes reins. Pourquoi la chaleur de mes reins ne pourra-t-elle pas, lors de certains autres cycles, être pareillement affaiblie, en sorte qu'il ne puisse plus pétrifier mon phlegme ? Et pourquoi la nature ne pourra-t-elle pas se mettre à prendre une autre voie de purgation ? Les ans ont évidemment fait tarir chez moi certains rhumes, mais pourquoi ne le ferait-il pas pour ces excrétions qui fournissent sa matière au sable ? De plus, est-il rien d'aussi doux que ce changement soudain ? Quand à la suite d'une douleur extrême, j'en viens, grâce à l'expulsion de ma pierre, à recouvrer, comme par un éclair, la belle lumière de ma santé, si libre et si pleine, comme cela arrive dans nos soudaines et plus rudes coliques néphrétiques. Y a-t-il quelque chose dans cette douleur subie que l'on puisse mettre en balance avec le plaisir d'un si prompt changement favorable ? Comme la santé me semble plus belle après la maladie, si proche et si voisine, que je peux les examiner l'une en présence de l'autre dans leur plus belle tenue où elles se mettent à qui mieux comme pour rivaliser et s'opposer. Il y a un rapport esthétique de Montaigne à sa propre maladie, dit Ottaviani, puisqu'en fait, ce qu'il a l'air de dire là, dans l'extrait que j'ai lu, c'est un extrait du chapitre sur l'expérience, le chapitre 13 du livre 3 des Essais. Il dit, bien, finalement, ce qu'il y a de doux dans la santé, c'est le passage de la douleur à l'absence de douleur, et c'est peut-être ce qui fait ressortir le bien-être, c'est d'avoir un gros moment de douleur pour ensuite profiter de la douceur, de cette suspension de la douleur.
Alors, effectivement, c'est finalement un état relatif. C'est-à-dire que il ne s'agit plus de chercher ce qui était la quête de l'Antiquité, une espèce de souverain bien, ce que les Grecs, sous des modalités différentes, appelaient l'ataraxie, c'est-à-dire une espèce de tranquillité. Ce qu'ils critiquent d'ailleurs, ils critiquent l'indolence des épicuriens, c'est-à-dire qu'il ne veut pas ne rien ressentir. Il dit « lorsque je veux avoir mal, je veux le savoir ». Pourquoi ? Parce que...
Lorsque je suis malade, je veux le savoir. Lorsqu'on me fait mal, je veux le sentir.
Exactement. C'est-à-dire que il faut ressentir complètement son corps. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de chercher une espèce d'abstraction. Nous sommes des corps et il faut s'inscrire complètement dans cette corporéité. Et de ce fait, la santé va apparaître comme n'étant non pas un état stable ou un état de perfection absolue, mais comme étant une espèce de sortie de la douleur et une sortie de la maladie. Parce qu'effectivement, par opposition, eh bien, quand il a expulsé sa pierre, eh bien, le bonheur apparaît. Le bonheur, finalement, est attaché à la dimension de la maladie.
Il est physiologique aussi, là, c'est aussi la libération d'avoir cette pierre qui se détache.
Effectivement, c'est un moment de libération et on atteint des degrés de bonheur qui peut-être ne seraient pas atteignables sans la maladie.
Mais de plaisir, là, du coup, vous êtes distingué. Ce qu'il décrit là, oui, c'est un état de plaisir, là, parce qu'il est physiologique.
C'est un état de plaisir physiologique, effectivement. Ce n'est pas un bonheur au sens, on pourrait dire, plus moral. Dans cette question-là. Mais les deux sont liés chez Montaigne. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rapport constant entre les problématiques passionnelles morales et les problématiques physiologiques. Puisque justement, eh bien, alors son état d'esprit et son état mental dépend de son état de santé ou de maladie. Il est de plus ou moins bonne humeur en fonction de son état corporel.
Il y a cette fameuse phrase, il dit lorsque j'ai un corps au pied, par exemple, je suis d'une humeur exécrable et je ne peux pas me concentrer sur autre chose.
Je suis tout renfrogné. Ouais. Et lorsqu'il va bien, effectivement, il est de bonne humeur lorsqu'il est en santé. Donc en réalité, le corps et l'âme ne sont pas deux entités séparées chez Montaigne. Il y a véritablement une fusion de l'individu. Et finalement, ce qu'il reproche à, on pourrait dire, la philosophie classique, puisqu'il a cette fameuse phrase « je ne suis pas philosophe », c'est-à-dire qu'il refuse un être abstrait. L'être abstrait des philosophes, c'est-à-dire l'être purement intellectuel qui cherche le vrai et le faux. Alors il ne s'intéresse pas du tout aux questions de vrai et de faux, le vrai pour lui est inatteignable. Il se contente simplement de revenir à une dimension purement humaine, et c'est ça finalement le côté proprement humaniste de Montaigne, c'est prendre l'humain comme un tout et non pas comme une espèce de raison, c'est-à-dire qu'on remet en question l'idée que l'homme est un animal rationnel. Non, l'homme est un animal qui a une raison, mais cette raison est inscrite dans un corps, et ce corps joue avec cette raison en permanence.
Quelle différence alors avec les épicuriens qu'il va critiquer fortement dans les essais, y compris lorsqu'il parle de la santé, qui aussi voit le bonheur comme étant une forme de suspension de la douleur et qui aurait pour base une forme de physiologie?
Alors, là aussi, c'est toujours le problème avec Montaigne, c'est qu'il a aussi un rapport ambigu avec ses épicuriens, puisque d'ailleurs il y a beaucoup de textes, de commentateurs qui présentent un Montaigne épicurien, puisque par moments il semble être épicurien, c'est-à-dire que cette espèce d'ataraxie et d'indolence par moments semble être une solution à ses problèmes. Mais à d'autres moments, justement, il va les critiquer parce que il a toujours ce rapport un petit peu complexe qui fait qu'il se contredit beaucoup. En réalité, parce que, il ne trouve pas finalement dans cet épicurisme ce qui était promis, c'est-à-dire une sorte de tranquillité. En réalité, les maux reviennent, les problèmes reviennent. Il faut donc chercher ailleurs une manière de penser la santé et donc de vivre la santé. Non pas comme quelque chose qu'il faudrait, atteindre par un rejet de la maladie, mais bien comme quelque chose qui suppose l'inscription dans mon corps. C'est toute la thématique de cette condition humaine. C'est-à-dire que l'homme n'est plus considéré comme étant une nature au sens d'une essence rationnelle, mais c'est une condition. Nous sommes en condition, nous sommes dans une situation particulière, et il faut donc vivre cette situation pleinement et ne pas chercher à s'en extraire par une mise à l'écart des douleurs, des problèmes, des maux, etc. Au contraire, il faut les intégrer dans notre pratique de vie. C'est en cela que la vie en santé, c'est finalement une sorte d'exercice. Un exercice, c'est bien dans lequel la totalité de l'individu est impliquée, et dans lequel, on ne peut pas se contenter de rester un esprit rationnel. Il faut vivre son corps pleinement.
Avec la douleur que cela implique.
Avec la douleur que cela implique, qui fait partie de la vie elle-même.
Notre bien-être n'est que la privation du mal-être. Voilà pourquoi la secte philosophique qui a le plus célébré la volupté l'a ramenée à la seule absence de douleur. Le fait de n'avoir point mal, c'est avoir le plus grand bien que l'homme puisse espérer. Car ce même chatouillement et aiguillon qui se rencontrent dans certains plaisirs et semble nous élever au-dessus de la simple santé et de l'absence de douleur, cette volupté active, excitante et, je ne sais comment, cuisante et mordante, celle-là elle-même ne vise pas d'autre but que l'absence de douleur. L'ardeur qui nous porte au commerce charnel des femmes ne cherche qu'à chasser la peine que nous apporte le désir ardent et furieux, et ne demande qu'à l'assouvir et à se mettre au repos et dans l'exemption de cette fièvre. Je dis donc que si la simplicité nous achemine à n'avoir point de mal, elle nous achemine à un très heureux état pour notre condition. Il ne faut cependant pas l'imaginer à ce point obtuse qu'elle soit tout à fait sans goût. Je suis heureux de n'être pas malade, mais si je le suis, je veux savoir que je le suis. Et si on me cautérise ou si on m'incise, je veux le sentir. À la vérité, si l'on déracinait la connaissance du mal, on extirperait du même coup la connaissance de la volupté et enfin, on anéantirait l'homme.
Oh là là, ça va pas fort, oh là là, serait-ce la mort? En tout cas, c'est l'enfer, et l'on ne peut pas nier qu'une santé de fer, ça finit par rouiller. Moi j'ai flairé l'arnaque, je veux bien vieillir, mais une crise cardiaque, ah non, plutôt mourir. Vivre-tu, c'est affreux, j'en peux plus, qui dit mieux? Moi vivante en tout cas, croix de fer, croix de bois, moi vivante en tout cas, je ne décéderai pas. Mais quand mon corps me dit stop, je me tope, et si mon ventre gargouille, j'ai la trouille, et je flippe, et je suffoque, j'ai des tics, j'ai des tocs, et c'est comme ça tous les jours. Au secours, au secours, au secours, au secours. Oh là là, ça va pas fort, oh là là, mon pauvre corps. Et d'abord par principe.
Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h30. Vous écoutez Agnès Bille après avoir écouté Montaigne, interprété par Jean-Louis Jacopin, car c'est le premier temps d'une série d'émissions consacrées à la santé. Et pour l'occasion, c'est de Montaigne que nous parlons, en compagnie du philosophe Didier Ottaviani.
J'ai pas l'impression d'être hypochondriaque, et quand mon corps me dit stop, je me tope, et si mon ventre gargouille, j'ai la trouille, et je flippe, et je suffoque, j'ai des tics, j'ai des tocs, et c'est comme ça tous les jours. Oh là là, ça va pas fort, oh là là, vite, un croque-mort. Il ne faut pas flipper face à la maladie, moi je dors comme un bébé qui ne fait pas ses nuits, car on ne peut pas nier qu'en ce moment peut-être un moustique assoiffé de mon sang vient de naître. Et d'ailleurs pour info, c'est pas de la parano, non, 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 non. Mais c'est quand même pénible, qu'on le veuille ou non, d'avoir déjà des rides et encore des boutons. Mais quand mon corps me dit stop, je me tope, et si mon ventre gargouille, je la trouille, et je flippe, je suffoque, j'ai des tics, j'ai des tocs, et c'est comme ça tous les jours. Au secours, au secours. Et quand mon corps me dit pousse, j'ai la frousse, et si jamais j'éternue, ça me tue, je n'en peux plus, ça me donne de l'urticaire, je galère, c'est l'enfer. Finalement, quand ça va bien, c'est que j'ai le rhume des poings. Mais quand mon corps me dit stop, je me tope, et si mon ventre gargouille, j'ai la trouille, et je flippe, je suffoque, j'ai des tics, j'ai des tocs, et c'est comme ça tous les jours. Au secours.
Voilà, la différence de la chanteuse Agnès Bille qu'on vient d'écouter, Didier Ottaviani, Montaigne n'a pas un rapport, disons, de peur à la douleur. Il dit bien qu'il ne veut surtout pas appeler au secours. Mais arrêtons-nous un instant sur cette position qui est théorique hein, chez Montaigne, d'acceptation de la douleur. Il n'y a aucun dolorisme derrière cela. En revanche, ce qu'on peut y entendre, c'est le fait que le but n'est pas forcément de guérir, mais de comprendre que nous souffrons. C'est d'abord se connaître soi-même, y compris dans la douleur et dans la souffrance, pour se donner les moyens, peut-être, de l'accepter.
Oui, puisque, justement, bien se comprendre soi-même suppose aussi qu'on se comprenne dans les états de douleur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'essayer de la faire disparaître uniquement, mais de comprendre ce que je suis lorsque je suis dans un état maladif. Donc, en réalité, je suis une succession d'états. Et ça ne sert à rien d'essayer de m'imaginer comme purement en santé, sans aucune douleur, sans aucune maladie. Il ne s'agit pas non plus de faire du dolorisme, effectivement, et de revendiquer la douleur. Il s'agit de comprendre que je passe par une succession d'états, et que ce fameux savoir être à soi, eh bien, c'est comprendre chacun de mes états dans leur variation, dans leur espèce de succession perpétuelle qui est l'économie propre de la vie. Vivre, c'est ça, pour Montaigne, et c'est ça qui est important. Donc de ce fait, le savoir être à soi, eh bien, suppose que je sache être à moi aussi lorsque je suis dans un état de maladie. Et pour cela, il faut que je ressente cette maladie. D'où le fait que, eh bien, il oppose, deux états de la maladie, c'est-à-dire l'état véritable, c'est-à-dire j'ai mal effectivement en ce moment, et donc je dois le vivre, le comprendre et me comprendre dans cet état. Mais je dois éviter de croire que j'ai mal lorsque je n'ai pas mal. C'est pour ça qu'il va restituer cette figure du laboureur, c'est-à-dire de la personne simple, celui qui n'a mal au rein que quand il a mal au rein, et non pas parce qu'il prévoit d'avoir plus tard mal au rein, et donc de ce fait commence à entrer dans une espèce d'anticipation imaginaire de la douleur, qui finalement est une méconnaissance complète de soi. Donc il est important de savoir quand est-ce que l'on est malade, pour justement eh bien, discriminer les moments où je suis simplement dans une imagination de la maladie qui ne fait rien d'autre eh bien, que déstabiliser ma vie et m'empêcher de vivre pleinement ma santé.
Mais comment être autrement que dans un rapport d'imagination à sa propre santé, puisque c'est par définition, il le dit lui-même, irrationnel. Enfin, le rapport que j'ai à mon corps ne passe pas par une raison toute puissante qui distinguerait le vrai du faux. Je suis dans un rapport d'agréable ou de désagréable, de plaisir et de douleur. Comment brider cette imagination de manière à être attentif à son corps pour pouvoir le comprendre? C'est donc bien qu'il réintroduit un usage de la raison à ce moment-là.
Oui, alors, c'est pas un usage... alors, effectivement, il y a quand même une dimension rationnelle qui est réintroduite, mais c'est plutôt quelque chose qui relève d'une culture plutôt stoïcienne, c'est-à-dire une culture de l'appropriation de soi. C'est-à-dire que la raison n'est pas quelque chose qui regarde l'individu de l'extérieur, qui le juge de manière universelle, de manière purement théorique. C'est quelque chose qui doit être inscrit, justement, dans une pratique de vie. D'où le fait que bien que cette raison puisse être aussi sollicitée, elle ne peut prendre place que dans ce qu'il appelle l'exercitation. L'exercitation, oui, c'est... alors, c'est pas vraiment un exercice, c'est apprendre à être soi. L'exercitation du soi, c'est cette espèce d'entrée dans une pratique du soi, alors qui reprend des vieilles traditions, qui peuvent être les traditions... on imagine par exemple les traditions des exercices spirituels depuis l'Antiquité, qui sont un classique justement de l'étude pratique morale depuis l'Antiquité. Mais c'est une espèce d'expérience de soi perpétuelle. D'où le fait que, on parlait tout à l'heure du côté expérimental de la médecine, eh bien c'est très important justement que le malade apporte aussi son expérience, apporte aussi eh bien, sa dimension de connaissance de patient. Ça me fait toujours penser à des choses que l'on trouve chez Foucault, avec le refus justement de différencier le médecin qui sait du malade qui est un simple objet patient. Et Foucault propose, qui a engendré ce qu'on appelait les mouvements de malades, notamment aux États-Unis, eh bien, l'idée qu'entre le patient et le médecin, il y a une collaboration, parce que chacun a une forme de savoir, mais une forme de savoir différente, puisque l'un vit la maladie et l'autre la connaît purement théoriquement.
Vous savez, quelqu'un comme moi, c'est-à-dire appartenant, né dans la petite bourgeoisie de province, est-ce qu'on n'a pas été élevé, biberonné au savoir? Avant même l'école primaire, tout un milieu dans lequel la règle d'existence, la règle de promotion, c'était d'en savoir un peu plus que l'autre, d'être un petit peu meilleur en classe. J'imagine même de mieux sucer son biberon qu'un autre, d'avoir fait ses premiers pas avant un autre, etc. Le concours, la compétition, en faire un peu plus que l'autre, être le premier. C'est-à-dire, quelqu'un comme moi, on a toujours vécu là-dedans. Alors, je suis pas arrivé au savoir. J'ai toujours été dans le savoir. J'y ai barboté.
Vous avez eu de la chance.
Est-ce que c'est de la chance? Et je vous dirais, si je dis que j'ai barboté dans le savoir, c'est dans la mesure où, au fond, j'aimerais plutôt essayer de m'en débarrasser. Mais comme il n'est pas possible de se débarrasser de son savoir, tâcher de trouver d'autres voies, de trouver la diagonale, de biaiser, de trouver enfin quelque chose qui ne fait pas partie du savoir, mais qui mériterait de faire partie du savoir.
Elle ne comprend pas qu'à l'hôpital, on ne lui ait rien trouvé. Aurait bien voulu qu'il le garde au moins quelques semaines, d'autant qu'ils auraient pu aller à la montagne pour la première fois, mais lui, son chien, ses poules, ses lapins, alors ils l'ont laissé sortir. Mais elle sent que ça va pas. Elles sont drôles, les femmes. Sûres d'être les seules à sentir, à savoir. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux? Je sais ce que je dis, je suis sa fille. Je suis pas docteur, mais tout de même, je suis sa mère. Elles sont perdues, désespérées. Elles en peuvent plus. Docteur, vous comprenez? Oui, tu comprends qu'elles sont dans la merde et qu'elles te demandent d'y mettre les mains. Parce que lorsque tu pousses la porte de la chambre, tu vois bien que la toux, la fatigue, les larmes, ça ne donne pas du tout le fameux de l'histoire. Le vieux, il te fait comprendre qu'il en peut plus de sa fille qui s'angoisse parce qu'il vieillit. Et le petit, s'il balance à la volée ses petits légumes si bien moulinés, c'est qu'il en peut plus d'étouffer dans l'amour de sa mère. Elles sont drôles, les femmes, quand elles comprennent que t'es du genre à faire de la résistance. Mais vous n'allez rien faire, docteur ? Si, madame. On va faire simple.
Elles sont drôles, les femmes. Toutes pareilles avec leurs enfants, avec leurs parents, toujours la même inquiétude, la même culpabilité. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ?
La réflexion sur la santé de Montaigne le conduit à adopter une attitude particulière au savoir et donc à l'expérience. C'est ce que vous disiez, Didier Ottaviani. On a d'abord entendu Michel Foucault, c'était dans un extrait d'entretien enregistré avec Jacques Chancel en 1975, dans lequel il disait qu'il avait été un peu biberonné, il avait biberonné au savoir, hein, qu'il baignait dans le savoir et que pour autant il avait essayé de trouver une manière de... un angle, disons, biaisé pour rentrer dans ce savoir, un angle, une manière subjective de s'approprier ce savoir. Et c'est assez frappant avec ce que les textes de Montaigne, où il parle lui-même, on pourrait presque parler d'un mode de subjectivation hein, du savoir dans et par la santé chez Montaigne. Et c'est ce que venait illustrer un extrait de La maladie de Saxe, le film La maladie de Saxe, dans lequel on voit ce médecin qui va voir différents patients et qui est toujours en lutte contre ce que l'opinion, disons, des patients par rapport à leur propre maladie. Et là, il oppose à son savoir en tant que médecin à l'expérience que fait le malade pour savoir qui a raison. Et finalement, c'est ça la question que pose à nouveau frais Montaigne. C'est la santé prend-elle le risque de nous faire tomber dans une forme de relativisme ou bien est-ce qu'il parvient à mettre en place une forme de rapport subjectif au savoir, indépendamment de toute forme de vérité ?
Alors là, c'est une question très complexe qui dépasse chez Montaigne la simple question de la santé, mais qui permet d'avoir une espèce de perspective un petit peu englobante de l'ensemble des essais, c'est-à-dire que c'est avant tout quelque chose qui relève d'une herméneutique du soi. Alors j'aime beaucoup le texte de Foucault, l'herméneutique du sujet, sur cette question-là, puisque il s'agit effectivement de penser une subjectivation qui est toujours une interprétation. Donc de ce fait, Montaigne considère que l'élément fondamental, c'est l'interprétation. Et cette interprétation est quelque chose qui est à la fois une interprétation de la santé et de la maladie, mais qui est une interprétation finalement aussi de toute la culture que j'aurais pu recevoir, il faut aussi se l'approprier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la recevoir comme, alors Foucault parlait d'un bain du savoir, où il faut être toujours le meilleur, et qui tète le mieux son biberon, etc. Non, au contraire, il faut réellement se l'approprier, et cela veut dire le transformer. C'est-à-dire, il faut le lire à l'aune de soi. En quelque sorte, il faut être la mesure de ce savoir et réussir à le comprendre, à le faire sien. Donc le savoir n'est pas quelque chose de purement théorique, d'où le fait qu'il refuse que ce soit le médecin qui ait le savoir, puisque le patient a une expérience de ce savoir, c'est un autre point de vue, c'est la manière dont il vit effectivement ce savoir. Et finalement, le savoir théorique, et je pense que Foucault a raison, n'a strictement aucune importance. L'important, c'est véritablement ce que l'on en fait, en quoi cela nous permet de vivre, en quoi cela nous permet d'aborder une autre manière d'être à soi.
Mais ça, c'est peut-être vrai en général, ou disons comme prise de position philosophique, mais dans le cas de la santé, c'est quand même différent. C'est dénigrer ou mettre au second plan le savoir du médecin qui, lui, sait en connaissance, qui, lui, n'est pas malade, mais a suffisamment de données théoriques pour pouvoir identifier une maladie et proposer le remède approprié. C'est l'extrait de La maladie de Saxe qu'on a entendu. Hein. Je n'ai pas dit, c'est le film de Michel Deville qui date de 99. Albert Dupontel, dans le rôle du médecin, dit bien, voilà, la mère, elle pense qu'elle sait mieux que moi de quoi souffre son fils. Elle pense que le vieillard est malade alors qu'il est tout simplement en train de vieillir ou de mourir. C'est sa connaissance et son savoir de médecin qui lui permet de savoir ça.
Oui, mais il y a aussi un côté un petit peu dangereux de cette monopolisation du savoir par, on pourrait dire, les sachants. Avec l'idée qu'on est dépossédé, d'une certaine manière, d'une partie de soi. C'est-à-dire cette partie que l'on ignorerait et dont on ne recevrait finalement la connaissance que de l'extérieur. Et c'est là où l'interprétation joue un rôle fondamental. C'est-à-dire qu'il y a aussi une manière de se comporter dans ce savoir, dans la manière dont l'individu va se subjectiver par rapport à lui, comme on le disait tout à l'heure, et qui fait que Montaigne va prendre une autre perspective dans son cas. C'est-à-dire que son écriture est elle-même un moyen de restituer non pas un savoir sur sa maladie, mais un dire de la maladie, une interprétation du vécu de la maladie. Et c'est en soi une sorte de soin. Alors, c'est très intéressant de voir que cette pratique de l'écriture peut aussi nous orienter sur une pratique de la lecture. C'est pour ça que je parlais de l'interprétation tout à l'heure. Et j'ai eu l'occasion pendant plusieurs années de travailler avec des personnes qui étaient en souffrance psychique et nous travaillons beaucoup autour de Montaigne. Et un jour, l'un d'entre eux m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui a fait que j'ai travaillé sur Montaigne et la santé un peu pour cette raison-là. Il m'a dit « Montaigne me fait plus de bien que les médicaments ». Et effectivement, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de possibilité de s'installer dans la maladie, non pas pour eh bien, la revendiquer comme quelque chose de positif, mais pour réussir à se comprendre, s'interpréter et comprendre que l'on était malade, mais que les médecins qui posaient un diagnostic, il y a ce problème du diagnostic. Alors notamment dans la question des maladies psychiques, il faut voir que le diagnostic est quelque chose qui est considéré comme étant, par le patient, mais par le médecin lui-même, eh bien, comme une position de subjectivité.
Oui, ça, on en parlera jeudi prochain avec Roland Gori.
C'est-à-dire que c'est un peu le problème du diagnostic, c'est-à-dire on vous dit, vous êtes ceci, et tout d'un coup vous le devenez. Du jour au lendemain, vous passez d'une branche à une autre, vous étiez normal et soudain, vous êtes fou.
Vous êtes un nouvel homme, dirait, un autre homme, dirait.
Vous êtes un autre homme, exactement. Et ça, c'est problématique, parce qu'à ce moment-là, quel est le statut du patient vis-à-vis de cette transformation que finalement on lui fait subir de l'extérieur? Est-ce qu'il peut l'accepter? Alors, il y a toute une série de passages très intéressants de Montaigne sur la question de la folie. Par exemple, il a visité le Tasse dans sa prison. Alors, il est un peu horrifié qu'on mette le Tasse en prison.
Le Tasse.
Le grand poète qui a écrit La Jérusalem libérée, poète italien, bon, qui était fou, entre guillemets, à la fin de sa vie. Mais c'est quand même le Tasse. La folie est une manière d'être humain. Et c'est là où l'humanisme de Montaigne apparaît. C'est-à-dire que le fou, ce n'est pas l'autre de l'homme. C'est une autre manière d'être homme. C'est une manière peut-être irrationnelle d'être homme. Mais ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à l'humanité. Et c'est ça que Montaigne critique avec le rationalisme théorique. C'est-à-dire que si je considère que l'homme est un animal rationnel, alors le fou est un anormal. Alors le fou est en dehors de l'humanité. Et Montaigne ramène la folie, la maladie, tout ce qui pourrait être, disons, l'autre de l'homme, qu'on cherche à combattre par le discours théorique, qui cherche à nous persuader qu'eh bien, être en bonne santé, c'est être rationnel, bien portant. Aujourd'hui encore, on a toute une espèce de mythologie du corps, comme cela, avec toute une série d'exercices. Alors, non pas qu'il ne faille pas, évidemment, chercher la santé et qu'il faille faire n'importe quoi, mais il faut aussi refuser, en quelque sorte, une pure théorisation purement abstraite de ces questions médicales pour apprendre à savoir qu'est-ce qui me convient.
Est-ce qu'on pourrait dire que Montaigne, davantage que la santé, prend en compte ce qu'est le sain, ce qui implique
exactement
la maladie?
Exactement. C'est-à-dire que c'est là où on dépasse l'opposition santé-maladie, qui sont des concepts théoriques et abstraits. Le sain, c'est autre chose, parce que c'est un état, et je peux être sain en étant malade. C'est quelque chose qui peut sembler paradoxal, parce que le sain n'est pas l'opposé de la maladie.
Non, mais le sain serait le lucide, c'est celui qui sait qu'il souffre, et celui qui sait qu'il est malade.
C'est celui qui sait qu'il est malade, qui sait ce qu'il en est de vivre cette maladie, qu'il accepte, le vivre coliqueux dont on parlait tout à l'heure, par exemple, que Montaigne finit par accepter. Alors des fois, évidemment, quand il est en crise de colique néphrétique, bon, il aimerait bien que tout cela cesse. Mais en même temps, ça fait partie de sa vie. Il ne serait pas Michel de Montaigne s'il n'avait pas cette gravelle. Il serait un autre homme. Et donc, ça fait partie intégrante de sa véritable subjectivité. Et de ce fait, eh bien, la condamnation théorique de la maladie au nom d'une santé abstraite, eh bien, ne restitue pas le fait que lui-même se considère comme sain, profondément.
Notamment dans et par le travail de l'écriture que vous pointiez, vous insistiez sur la nécessité de l'interprétation comme posture à adopter face au savoir médical. Et est-ce qu'on peut trouver chez Montaigne l'idée quand même que du coup l'écriture, j'irai pas jusqu'à dire la philosophie, mais que cette forme d'écriture serait comme une forme de médecine de l'âme?
Alors c'est une sorte de médecine de l'âme parce que il n'y a plus, disons, de recherche d'une espèce de théorisation abstraite. Il y a simplement, eh bien, la volonté de se décrire. Il dit se mettre en rôle, c'est-à-dire se mettre en rouleau, se mettre dans un ensemble de textes. Et finalement, Michel de Montaigne, ce n'est plus que cela pour nous. Ce qu'il reste de Montaigne, c'est un ensemble de papiers. Et c'est tout Montaigne pour nous. Donc finalement, ce qu'il reste de cet individu, c'est ce qu'il a lui-même construit, ce qu'il a lui-même interprété, ce qui a été sa subjectivation perpétuelle par l'exercitation de soi et le récit de celle-ci dans son œuvre.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté, cet orage avant l'été, cette chupine petite sœur. Tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur. La virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui...
Un grand merci Didier Ottaviani d'être venu nous parler de Montaigne aujourd'hui, de Montaigne et de sa bonne, mauvaise santé, en tout cas celui qui insiste sur le sain davantage que sur la santé, sain et saïenne évidemment. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h51. Encore deux minutes papillon, il est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie qui vient vous parler d'un livre de philosophie qui vient de sortir. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, Vivre comme un prince, écrit de jeunesse de Henry David Thoreau, écrit encore inédit en français et qui sont parus fin janvier aux éditions Climat. Écrivain majeur de l'Amérique du 19e siècle, Henry David Thoreau n'est pourtant redécouvert que depuis peu, de son récit Walden ou La vie dans les bois à son essai sur la désobéissance civile. Texte qui résonne tout particulièrement avec notre époque attirée par une vie à l'écart, un retour à la nature loin des normes écrasantes. Et c'est dans ce mouvement de redécouverte que s'inscrit aussi cette initiative des éditions Climat de traduire enfin les écrits de jeunesse de Thoreau, jusqu'alors encore inédits en français. Ces textes, 27 en tout, assez courts, pas plus d'une dizaine de pages à chaque fois, traitent de sujets divers, posent des questions multiples. Faut-il suivre la mode, par exemple? Ou encore, devons-nous tenir un journal? Mais ces textes forment un tout, ils donnent à entendre ce qui constituera la cohérence et la singularité de la philosophie de Thoreau. Dans sa préface, Michel Onfray voit dans ces textes un autoportrait de son futur, parce qu'il figure déjà une distinction clé de l'œuvre de Thoreau, celle entre les fausses valeurs qu'il s'agit de refuser, comme la mode, les richesses, le succès entre autres, et les vraies valeurs, à savoir la simplicité, la vérité, la justice ou encore la vie. Alors dit comme ça, cette distinction paraît un peu floue et même un peu vague, car la vérité, la justice ou la vie sont des valeurs que chacun d'entre nous peut défendre, peut percevoir sans jamais pouvoir les définir précisément. Alors que retirer au final de ces textes de Thoreau? Eh bien sûrement cette capacité à nous parler simplement, à dire des choses évidentes, mais que l'on a tendance à ne plus dire, à nous toucher dans ce que nous avons de plus ordinaire, mais peut-être aussi de plus sublime. La force de ces écrits de jeunesse, c'est de nous rappeler, de redécouvrir pour nous les plaisirs à notre portée, la force, le bon sens que l'on a en nous et qu'il s'agit de cultiver au jour le jour. Et je rappelle, le titre de l'ouvrage, c'est « Vivre comme un prince », ce sont les écrits de jeunesse de Henry David Thoreau et c'est paru aux éditions Climat.
« Vivre comme un prince », le titre est magnifique. Merci Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à la santé. Demain, ce sera de Nietzsche qu'il sera question en compagnie du professeur à l'Université de Reims, philosophe évidemment, Patrick Wöttling. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins, où vous y trouverez indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez la réécouter en ligne ou la podcaster, c'est-à-dire la télécharger, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Nouveaux Chemins vous donne également rendez-vous sur Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour.